Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi du commentaire, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Et après, nous vous présentons le rappel de titres de l'actualité.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le président indonésien Joko Widodo est arrivé à Berlin en Allemagne. Le président Joko Widodo visite Londres ce lundi. Jokowi visite un programme de formation professionnelle chez Siemens. L'ambassadeur indonésien a transmis la lettre de créance au roi de Belgique. BKPM invite la société pharmaceutique allemande à investir. Le gouvernement et le peuple de l'Indonésie ont exprimé ses condoléances aux victimes du tremblement de terre en Équateur. Et enfin, l'Indonésie participera à Arabian Travel Market 2016 à Dubaï. Voici le journal complet. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, et sa suite sont arrivés à Berlin en Allemagne dimanche ou lundi matin, heure indonésienne, pour commencer une visite de travail en Europe du 17 au 23 avril 2016. Cette visite fait partie d'une série de visites en Europe à cette année. Le président Joko Widodo a commencé ses activités en Allemagne lundi matin, heure locale. À cette visite, le président indonésien est accompagné par, entre autres, le secrétaire du cabinet Pramono Anung, le ministre du Commerce Thomas Lembong, le personnel présidentiel Ari Dwipayana. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, visite Londres du 18 au 20 avril 2016. Comme rapporté l'ambassade d'Indonésie à Londres dimanche, une visite du président Joko Widodo du lundi vise à augmenter l'investissement, la culture de la tolérance, l'éducation, l'organisation d'événements sportifs et les industries créatives au Royaume-Uni. Pendant ce temps, mardi le 19 avril 2016 à Londres, le président rencontrera le premier ministre britannique David Cameron pour discuter des efforts visant à renforcer les relations bilatérales et à intensifier les relations politiques, économiques, socio-culturelles entre les deux pays maritimes. Le président Jokowi prononcera également un discours devant le Parlement britannique et la délégation des Nations Unies, à savoir l'Organisation maritime internationale basée à Londres. Le dernier jour en Angleterre, mercredi le 20 avril 2016, le président rencontrera les entrepreneurs et les invite à resserrer les relations d'entreprise à l'entreprise entre les deux pays. Le président Joko Widodo visitera à Siemens à Berlin, l'Allemagne, qui est succès pour développer la formation professionnelle ou des compétences, de sorte que le taux de chômage en Allemagne est le plus faible. L'ambassadeur indonésien en Allemagne, Fauzi Bowo, a déclaré que le président Jokowi parlera avec le chancelier allemand lié à cette question. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno LP Marsudi, a déclaré à Berlin le dimanche qu'il était en ligne avec le programme du gouvernement indonésien d'améliorer la formation professionnelle, l'éducation qui était très nécessaire pour répondre aux besoins du marché d'aujourd'hui. En Indonésie, l'augmentation de la compétence de la main-d'œuvre doit être liée à la mise en œuvre de la communauté économique de l'ASEAN. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Indonésie auprès du Royaume de Belgique, Yuri Otamarin, a transmis la lettre de créance au roi de Belgique au Palais Royal de Belgique. Le secrétaire d'eau de l'ambassade d'Indonésie à Bruxelles, Adherina Heroni Herdianto, citée par Antara de Londres dimanche, a dit « Dans son discours, le roi de la Belgique a exprimé son appréciation sur les relations bilatérales croissantes entre la Belgique et l'Indonésie qui ont été atteintes dans divers domaines. » Pendant ce temps, l'ambassadeur Yuri Otamarin a affirmé que l'Indonésie et la Belgique ont établi les relations bilatérales harmonieuses et ont souligné l'importance de continuer les bonnes relations entre les deux pays, notamment par l'amélioration des relations économiques et commerciales, les investissements, le tourisme et socio-culturel. Il espère que l'Indonésie peut développer une initiative de coopération de la sécurité régionale et la démocratie. Le Conseil de coordination des investissements ou BKPM invite la société pharmaceutique allemande à investir en Indonésie. Cette mesure pour profiter de la visite du président Joko Widodo à l'Europe, à savoir l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgique. Cela a été dit par le chef du Conseil de coordination des investissements, Frankie Sibarani, dans un communiqué de presse dimanche. Le Conseil de coordination des investissements invite les fabricants de produits pharmaceutiques allemands à étendre leurs investissements existants et faire de nouveaux investissements en Indonésie, car l'Allemagne est la quatrième source d'investissement du secteur pharmaceutique dans le monde. Selon Frankie Sibarani, le potentiel du marché pharmaceutique indonésien est très grand. Le marché pharmaceutique indonésien a le potentiel de croître deux fois en 2018 par rapport à 2013 et estimé à être dans le top 20 du monde qui est soutenu par l'augmentation de la population de la classe moyenne. Le directeur de la protection des citoyens indonésiens et l'aide juridique de l'Indonésie du ministère des Affaires étrangères, Lalu Muhammad Iqbal, a déclaré dimanche que le gouvernement et le peuple de l'Indonésie ont offert ses condoléances au gouvernement et au peuple de l'Équateur, les victimes du tremblement de terre équatorien qui a eu lieu le samedi soir. Lalu Muhammad Iqbal expliquait, à cause de ces tremblements de terre jusqu'à présent, au moins 41 personnes sont mortes et plusieurs bâtiments et certains ponts se sont effondrés dans les villes de Manta et Guayaquil. Le gouvernement local a déclaré une urgence nationale et a émis un avertissement de tsunami. L'évacuation dans les zones côtières de l'Équateur continue à faire. L'Indonésie participera à Arabian Travel Market qui aura lieu en 4 jours du 25 au 28 avril 2016 à Dubaï pour attirer les touristes du Moyen-Orient à visiter l'Indonésie. L'ambassadeur d'Indonésie aux Émirats Arabes Unis, Husin Bagis, à Abu Dhabi le dimanche, a déclaré que la participation indonésienne à cette activité était l'un des efforts de promotion pour augmenter les touristes étrangers à visiter l'Indonésie. Selon lui, dans un proche avenir, il fera une approche à Etihad Airways pour ouvrir le vol direct au départ d'Abu Dhabi à Lombok. Ceci est d'attirer les touristes de visiter Lombok qui a été connu comme une zone qui a remporté la meilleure destination touristique halal du monde et la meilleure destination de la lune de miel halal du monde, a déclaré Husin Bagis. La promotion est également menée à travers les médias tels que le magazine The Board, Garuda Airlines et Etihad Airways. Il fait également la promotion de la culture Farm Trip pour les journalistes des médias renommés dans le PEA pour visiter les destinations touristiques de la Sharia comme Lombok, Sumatra Ouest, Aceh et Sulawesi Sud. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs et auditeurs de la Voix d'Indonésie, écoutons maintenant le commentaire intitulé « Les pour et les contre sur la réclamation de la baie Jakarta. Ces auditeurs, la réclamation de la baie Jakarta est la question discutée par beaucoup de partis. Elle implique entre autres le membre du Parlement régional, M. Sanusi, dans l'affaire de la corruption. Il y a les pour et les contre sur le méga-projet immobilier. Cette question implique aussi diverses figures, les hommes d'affaires et le gouverneur de Jakarta, Basuki Cahayapurnama, ou mieux connu sous le nom Ahok. Maintenant, il y a un débat si le méga-projet sera continué ou non. La ministre des Affaires maritimes et des Pêches, Susi Pudjiastuti, et la commission 4 du Parlement ont convenu d'arrêter le projet de cette réclamation. Mais le ministre de la Planification du Développement National, PPN, qui est aussi le chef de l'Agence nationale de la planification du développement, Bappenas Sofiane Djalil, et le gouverneur de Jakarta ont décidé de continuer le méga-projet dans le nord de Jakarta. Concernant la réclamation de la baie Jakarta, le gouvernement provincial Jakarta veut réclamer 17 îles artificielles sur la côte nord de Jakarta. Selon Basuki Cahayapurnama, ce projet peut donner l'avantage à Jakarta, 45% des terres de toutes les îles réclamées seront la propriété du gouvernement provincial Jakarta et sera devenue l'installation sociale et l'installation publique. En outre, le gouvernement provincial a également reçu la contribution de terres à 5% de la superficie totale de la réclamation. Selon certaines personnes, la réclamation de la baie Jakarta a violé la loi et les règlements. Le vice-président Youssouf Kalla a suggéré d'arrêter temporairement et il faut gérer ou étudier en prenant la base juridique correcte. Il demande tous les aspects juridiques liés à la réclamation et vraiment évalués. Il avait déjà discuté avec le ministre d'Environnement et des Forêts, Mme Siti Nourbaya, basé sur l'aspect environnemental. Des artistes environnementaux se plaignent souvent du projet de la réclamation dans la côte nord de Jakarta. Ils croient que la réclamation de 17 îles artificielles peut endommager l'écosystème de l'environnement dans la baie de Jakarta. Si le projet de la réclamation de la baie de Jakarta sera continué, il doit donner des avantages au gouvernement de Jakarta, aux habitants de Jakarta, en particulier aux communautés autour de la côte nord de Jakarta. Ne laissez pas les intérêts du peuple et l'écosystème autour de la côte nord sont sacrifiés pour le développement et le progrès de la ville de Jakarta. Chers auditeurs, c'était commentaire aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers amis, écoutons maintenant l'histoire d'aujourd'hui, ce soir, l'édition 18 avril. On va commencer 18 avril 2007, Irian Jaya Barat officiellement rebaptisé Papouasie Occidentale. La Papouasie Occidentale est une province d'Indonésie située dans la partie ouest de la Nouvelle-Guinée. Sa capitale est Manokwari. Le nom de cette province, anciennement Irian Jaya Barat, le nom Irian Jaya Barat est stipulé dans la loi numéro 45 de 1999, mais basé sur le règlement du gouvernement numéro 24 de 2007. Du 18 avril 2007, le nom de cette province a été changé à la province de Papouasie Occidentale. La Papouasie Occidentale et de la Papouasie sont les provinces qui ont reçu le statut d'autonomie spéciale. On continue le 18 avril 1946, la Société des Nations a été dissoute. La Société des Nations, abrégée SDN, est une organisation internationale qui a été créée après la Conférence de paix de Paris en 1919. Ses principales fonctions sont le désarmement, la prévention de la guerre à travers la sécurité collective, résoudre le conflit entre les pays par la négociation et la diplomatie, et d'améliorer le bien-être global. Les objectifs de la SDN comportaient le désarmement, la prévention de guerre au travers du principe de sécurité collective, la résolution des conflits par la négociation et l'amélioration du bien-être mondial. Le principal promoteur de la SDN est le président des États-Unis, Woodrow Wilson, bien que les États-Unis n'aient jamais rejoint cette organisation. 42 pays sont devenus les membres lorsque SDN est établie. SDN n'a pas de force armée et dépend de la force internationale pour garder afin que ses résolutions soient respectées. Au début, SDN a montré leur succès dans la mise en œuvre de ses fonctions, mais finalement a échoué à empêcher les attaques. Menée par les forces de l'Axe dans les années 1930, après la Seconde Guerre mondiale, 18 avril 1946, SDN a été officiellement dissous et remplacé par les Nations Unies, abrégé l'ONU. On termine le 18 avril 1955, le premier sommet afro-asiatique. Sommet afro-asiatique, ou souvent aussi appelé la conférence de Bandung, était le sommet entre les pays d'Asie et Afrique tenu dans le ville de Bandung. La conférence a eu lieu du 18 au 24 avril 1955 et participée par des représentants de 29 pays d'Asie et d'Afrique. L'objectif principal de cette conférence est de former la puissance des pays du tiers-monde pour faire face à la superpuissance de l'Occident et l'Orient. À la fin de la conférence, on a signé la déclaration de Bandung dont l'accord pour établir la coopération économique et culturelle entre les pays du tiers-monde et reconnaît le droit de déterminer le sort des peuples d'Asie et d'Afrique. En outre, la conférence a également adopté une résolution contre l'occupation. La conférence afro-asiatique est également le précurseur de la formation de l'organisation du mouvement des pays non alliés. Ces amis, c'était l'histoire de celui de l'édition 18 avril. À demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
16e Longton, bonsoir. Voici donc la mise au point et pour le titre, la visite du président Jokowi à l'Europe pour renforcer la coopération globale. L'un des efforts pour réaliser la politique étrangère l'Indonésie, notre active, l'Indonésie continue de croître l'engagement à la coopération avec divers pays étrangers. Cette coopération est prouvée par la visite d'État du président indonésien Joko Widodo dans 4 pays européens, à savoir l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas, du 17 au 23 avril 2016. La page du secrétariat du cabinet a rapporté dimanche matin, 17 avril 2016, le président Jokowi, accompagné par le secrétaire du cabinet, Pramono Anung, le ministre du Commerce, Thomas Trikasi Lembong, et le personnel spécial du président, Ari Dupayana, sont partis pour Berlin, l'Allemagne, en utilisant l'avion présidentiel d'Indonésie de l'aéroport international Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Le membre de l'équipe de communication du président, Ari Dupayana, a déclaré que la visite était à l'invitation des dirigeants des pays européens. L'ordre du jour lors de visite comprend la coopération dans le domaine de l'économie et de la campagne sur la tolérance. Ari Dupayana a expliqué, l'Union européenne était l'un des partenaires traditionnels et stratégiques de l'Indonésie face aux nouveaux défis mondiaux. L'Indonésie priorisera à la coopération dans le commerce, l'investissement, la gestion maritime et l'eau. L'Union européenne est l'un des principaux partenaires de l'Indonésie dans le commerce et l'investissement. La valeur du commerce entre l'Indonésie et l'Union européenne en 2015 a atteint 26,14 milliards de dollars américains, faisant cette région comme quatrième partenaire commercial de l'Indonésie. Alors que les investisseurs de l'Union européenne en Indonésie est le troisième plus grand avec un investissement de 2,26 milliards de dollars en 2015. Lors de la visite d'État de 5 jours, le président Joko Widodo invitera également les dirigeants des pays européens à diffuser les valeurs de tolérance et de paix au milieu de l'extrémisme et le terrorisme dans diverses parties du monde à travers différents canaux, y compris les médias numériques et les nouveaux médias sociaux. Auparavant, le secrétaire du cabinet Pramono Anung, cité par Antara, a déclaré que la visite du président Jokowi en Europe mettra l'accent sur la coopération économique. Cependant, le dernier développement politique au Moyen-Orient et les problèmes de terrorisme seront également les sujets de discussion. À la même occasion, le ministre du Commerce Thomas Trikasi Lembong a déclaré que la visite du président à l'Europe concernait de nombreux aspects du commerce. Comme cité par Antara, le ministre a dit que l'un des résultats concrets à atteindre est l'achèvement de la phase initiale des négociations sur l'accord de partenariat économique global ou CEPA Union européenne-Indonésie. CEPA est une coopération économique géante parce qu'elle implique 28 membres de l'Union européenne avec une population totale de 530 millions et l'économie de 18,5 milliards de dollars américains par an. Pendant ce temps, le vice-ministre des Affaires étrangères, Aim Fahir, a expliqué que l'essence de la visite du président aux quatre pays européens était de renforcer le partenariat entre l'Union européenne et l'Indonésie en tant que pays ouvert et concurrentiel. Serge Tor, c'était la mise au point pour ce soir. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, et sa suite sont arrivés à Berlin, en Allemagne, dimanche ou lundi matin, heure indonésienne, pour commencer une visite de travail en Europe du 17 au 23 avril 2016. Cette visite fait partie d'une série de visites en Europe à cette année. Le président Joko Widodo a commencé ses activités en Allemagne lundi matin, heure locale. À cette visite, le président indonésien est accompagné par, entre autres, le secrétaire du cabinet Pramono Anung, le ministre du Commerce Thomas Lembong, le personnel présidentiel Ari Dwipayana. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, visite Londres du 18 au 20 avril 2016. Comme rapporté l'ambassade d'Indonésie à Londres dimanche, une visite du président Joko Widodo du lundi vise à augmenter l'investissement, la culture de la tolérance, l'éducation, l'organisation d'événements sportifs et les industries créatives au Royaume-Uni. Pendant ce temps, mardi le 19 avril 2016 à Londres, le président rencontrera le premier ministre britannique David Cameron pour discuter des efforts visant à renforcer les relations bilatérales et à intensifier les relations politiques, économiques, socio-culturelles entre les deux pays maritimes. Le président Jokowi prononcera également un discours devant le Parlement britannique et la délégation des Nations Unies, à savoir l'Organisation maritime internationale basée à Londres. Le dernier jour en Angleterre, mercredi le 20 avril 2016, le président rencontrera les entrepreneurs et les invite à resserrer les relations d'entreprise à l'entreprise entre les deux pays. Le président Joko Widodo visitera à Siemens à Berlin, l'Allemagne, qui est succès pour développer la formation professionnelle ou des compétences, de sorte que le taux de chômage en Allemagne est la plus faible. L'ambassadeur indonésien en Allemagne, Fauzi Bowo, a déclaré que le président Jokowi parlera avec le chancelier allemand lié à cette question. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré à Berlin le dimanche qu'il était en ligne avec le programme du gouvernement indonésien d'améliorer la formation professionnelle, l'éducation qui était très nécessaire pour répondre aux besoins du marché d'aujourd'hui. En Indonésie, l'augmentation de la compétence de la main-d'œuvre doit être liée à la mise en œuvre de la communauté économique de l'ASEAN. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Indonésie auprès du Royaume de Belgique, Yuri Otamarin, a transmis la lettre de créance au roi de Belgique au Palais Royal de Belgique. Le secrétaire d'eau de l'ambassade d'Indonésie à Bruxelles, Adérina Heroni Herdianto, cité par Antara de Londres dimanche, a dit « Dans son discours, le roi de la Belgique a exprimé son appréciation sur les relations bilatérales croissantes entre la Belgique et l'Indonésie qui ont été atteintes dans divers domaines. » Pendant ce temps, l'ambassadeur Yuri Otamarin a affirmé que l'Indonésie et la Belgique ont établi les relations bilatérales harmonieuses et ont souligné l'importance de continuer les bonnes relations entre les deux pays, notamment par l'amélioration des relations économiques et commerciales, les investissements, le tourisme et socio-culturel. Il espère que l'Indonésie peut développer une initiative de coopération de la sécurité régionale et la démocratie. Le Conseil de coordination des investissements, ou BKPM, invite la société pharmaceutique allemande à investir en Indonésie. Cette mesure, pour profiter de la visite du président Joko Widodo à l'Europe, à savoir l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgique. Cela a été dit par le chef du Conseil de coordination des investissements, Franky Sibarani, dans un communiqué de presse dimanche. Le Conseil de coordination des investissements invite les fabricants de produits pharmaceutiques allemands à étendre leurs investissements existants et faire de nouveaux investissements en Indonésie, car l'Allemagne est la quatrième source d'investissement du secteur pharmaceutique dans le monde. Selon Franky Sibarani, le potentiel du marché pharmaceutique indonésien est très grand. Le marché pharmaceutique indonésien a le potentiel de croître deux fois en 2018 par rapport à 2013 et estimé à être dans le top 20 du monde qui est soutenu par l'augmentation de la population de la classe moyenne. Le directeur de la protection des citoyens indonésiens et l'aide juridique de l'Indonésie du ministère des Affaires étrangères, Lalu Muhammad Iqbal, a déclaré dimanche que le gouvernement et le peuple de l'Indonésie ont offert ses condoléances au gouvernement et au peuple de l'Équateur, les victimes du tremblement de terre équatorien qui a eu lieu le samedi soir. Lalu Muhammad Iqbal a expliqué, à cause de ce tremblement de terre jusqu'à présent, au moins 41 personnes sont mortes et plusieurs bâtiments et certains ponts se sont effondrés dans les villes de Manta et Guayaquil. Le gouvernement local a déclaré une urgence nationale et a émis un avertissement de tsunami. L'évacuation dans les zones côtières de l'Équateur continue à faire. L'Indonésie participera à Arabian Travel Market qui aura lieu en 4 jours du 25 au 28 avril 2016 à Dubaï pour attirer les touristes du Moyen-Orient à visiter l'Indonésie. L'ambassadeur d'Indonésie aux Émirats Arabes Unis, Husin Bagis, à Abu Dhabi le dimanche a déclaré que la participation indonésienne à cette activité était l'un des efforts de promotion pour augmenter les touristes étrangers à visiter l'Indonésie. Selon lui, dans un proche avenir, il fera une approche à Etihad Airways pour ouvrir le vol direct au départ d'Abu Dhabi à Lombok. Ceci est d'attirer les touristes de visiter Lombok qui a été connu comme une zone qui a remporté la meilleure destination touristique halal du monde et la meilleure destination de la lune de miel halal du monde, a déclaré Husin Bagis. La promotion est également menée à travers les médias tels que le magazine de bord Garuda Airlines et Etihad Airways. Il fait également la promotion de la culture Farm Trip pour les journalistes des médias renommés dans le PEA pour visiter les destinations touristiques de la Sharia comme Lombok, Sumatra Ouest, Aceh et Sulawesi Sud. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et apprendre le l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Serviteurs, bonsoir, rencontrons-nous dans notre magazine culturel. Cette fois, nous allons vous inviter à se rendre à Pulau Burung ou l'île d'Oiseau dans la province de Bangka Belitung. L'île d'Oiseau est un des sites touristiques étant beau à Belitung. Cette île se trouve au district de Sijuk. Cette île est nommée l'île d'Oiseau car devant cette île, il y a une pierre unique comme les oiseaux sont en incubation de leurs œufs. Parmi les rocheurs de granit qui ressemblent à l'oiseau, dedans il y a un beau lac qui peut être trouvé à marée basse. Avec cette unicité, beaucoup de touristes viennent et prennent des photos avec l'arrière-fond de la pierre en forme de tête d'oiseau. Serviteur, la plage à l'île d'Oiseau à le sable blanc est en forme. L'eau de mer est propre et claire. Lorsque l'eau est marée basse, les touristes peuvent aller au ressort en forme comme un oiseau. Mais il faut faire attention car le long du chemin, il y a des ressorts pointus. Mais dans notre côté de l'île d'Oiseau, il y a un point de lieu qui n'a pas de ressort. La plupart des plages près de l'île d'Oiseau sont la plage qui a le fond de la mer avec du sable blanc et fin qui permet les touristes de nager sans crainte d'être touchés les ressorts pointus. Serviteurs, dans l'île d'Oiseau, il y a plusieurs bungalows qui se dressent entre les palmiers et peuvent être utilisés pour reposer. Pour ceux d'entre vous qui aiment explorer et chercher un lieu pour l'objet de photo, vous devez faire le tour de l'île d'Oiseau, car il y a beaucoup d'attractions que vous pouvez prendre des photos. À cette île, vous pouvez admirer la beauté de coucher le soleil. En outre, à cette île, il y a beaucoup de poissons d'ornement et le récif corallien qui le rend idéal pour la plongée. Pour aller à l'île d'Oiseau, vous devez passer Belitung. Nous vous proposons de prendre l'avion de Jakarta à Belitung qui dure seulement une heure. Vous pouvez utiliser également le bateau qui nécessite le long temps. Ensuite, pour aller à l'île d'Oiseau, vous pouvez louer un bateau de pêche avec un temps de trajet d'environ une heure. Serviteurs et auditrices, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « L'île d'Oiseau ». Demain, nous nous retrouverons avec d'autres sujets intéressants. À bientôt!
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Pour comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme « Allez, apprendre l'indonésien ».
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique « Apprendre l'indonésien », un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide à parler indonésien. Ce soir, le sujet est « Wisata malam Monas » ou en français « Le voyage de nuit à Monas ». Comme d'habitude, je vais tout d'abord introduire le vocabulaire et les expressions liées au thème d'aujourd'hui. Je dirai chacun deux fois et vous pouvez les répéter après moi. Wisata malam. Wisata malam. En français, le voyage de nuit. Dengar. Dengar. En français, entendre ou écouter. Buka. Buka. En français, ouvrir. Malam hari. Malam hari. En français, la nuit. Kesana. Kesana. En français, là-bas. Pulang kantor. Pulang kantor. En français, rentrer du bureau. Langsung. Langsung. En français, direct. Jam 7 malam. Jam 7 malam. En français, à 7 heures du soir. Jam 10 malam. Jam 10 malam. En français, à 10 heures du soir. Harga. Harga. En français, le prix. Ticket. Ticket. En français, le billet. Puncak. Puncak. En français, sommet. 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. En français, 10.000 rupiah. Kantor. Kantor. En français, bureau. Berjalan kaki. Berjalan kaki. En français, aller à pied. Kuliner. Kuliner. En français, kuliner. Di sekitar. Di sekitar. En français, aux environs de. Menemukan. Menemukan. En français, trouver. Makanan. Makanan. En français, nourriture ou plat. Bersama-sama. Bersama-sama. En français, ensemble. Cuaca cerah. Cuaca cerah. En français, temps clair. Ensuite, je vais donner l'exemple d'une conversation ayant pour titre « Wisata malam Monas » ou en français « Le voyage de nuit à Monas ». Comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. Vous les répétez après moi. Cette conversation est entre Anna A et Annie B. A. Saya dengar sekarang wisata Monas dibuka malam hari. Saya dengar sekarang wisata Monas dibuka malam hari. En français, j'entends que maintenant le site touristique Monas est ouvert à la nuit. A. Bagaimana kalau nanti malam kita ke sana? Bagaimana kalau nanti malam kita ke sana? En français, allons-y ce soir. B. Baiklah, pulang kantor kita langsung ke sana. Baiklah, pulang kantor kita langsung ke sana. En français, d'accord, nous y allons directement après avoir rentré du bureau. B. Wisata malam Monas dimulai dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Wisata malam Monas dimulai dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. En français, le voyage de nuit Monas est commencé à 7h jusqu'à 10h du soir. B. Harga tiket untuk sampai ke puncak Monas Rp10.000. Harga tiket untuk sampai ke puncak Monas Rp10.000. En français, le prix du billet pour aller au sommet de Monas est Rp10.000. B. Dari puncak Monas, kita bisa melihat keindahan Jakarta di waktu malam. Dari puncak Monas, kita bisa melihat keindahan Jakarta di waktu malam. En français, du sommet de Monas, nous pouvons voir la beauté de Jakarta à la nuit. A. Naik apa kita ke Monas? Naik apa kita ke Monas? En français, de quelle façon nous allons à Monas? B. Kita bisa berjalan kaki dari kantor saya ke Monas. Kita bisa berjalan kaki dari kantor saya ke Monas. En français, nous pouvons aller à pied du bureau vers Monas. A. Apalagi yang bisa kita lakukan di sana? Apalagi yang bisa kita lakukan di sana? En français, que pouvons-nous y faire? B. Kita bisa berwisata kuliner di sekitar Monas. Kita bisa berwisata kuliner di sekitar Monas. En français, nous pouvons faire le tourisme culinaire aux environs de Monas. B. Di sana, kita bisa menemukan makanan khas Betawi. Di sana, kita bisa menemukan makanan khas Betawi. En français, là-bas, nous pouvons trouver la nourriture typique de Betawi, soit Jakarta. A. Baiklah kalau begitu. Baiklah kalau begitu. En français, très bien. A. Saya akan ke kantor kamu nanti sore. Saya akan ke kantor kamu nanti sore. En français, je vais aller à votre bureau cet après-midi. Kemudian, kita bersama-sama ke Monas. Kemudian, kita bersama-sama ke Monas. En français, ensuite, nous allons ensemble à Monas. A. Semoga malam ini cuaca cerah. Semoga malam ini cuaca cerah. En français, nous espérons que le temps soit clair ce soir. A. Sampai jumpa. Sampai jumpa. En français, à bientôt. Chers auditeurs, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Il est souhaitable que cette rubrique puisse avoir de l'avantage pour vous qui voulez connaître plus loin de la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet. Merci à tous, à demain.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction. Aujourd'hui, vous allez écouter les chansons à rythme pop.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers fidèles amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde. Je vous souhaite que vous restiez fidèles à l'écoute de nos émissions, surtout le magazine de musique. Pour lundi. Et vous pouvez entendre nos émissions via émetteur à ondes courtes sur 9525 kHz ou bien via audio streaming sur www.voi.co.id ou via application RRI Play sur votre gadget ou portable. Chers amis, pour cette édition, on vous présente la chanteuse indonésienne Novia Kolopaking. Comme le début de notre rencontre, allez écouter d'abord la chanson de Novia Kolopaking intitulée Kembali. Bonne écoute.
Musique.
Chers fidèles amis, Novia Kolopaking est une chanson indonésienne qui est connue aux années 90. Ses chansons sont célèbres ainsi que toutes les radios les ont diffusées, comme la chanson Asmara. Mais, outre de chanter, Novia Kolopaking est aussi active comme actrice. Et vous savez, depuis sa petite, elle jouait en pièce et au film à la télévision. Mais, malheureusement, à cause des activités au film, Novia oubliait le mot musical. C'est-à-dire, elle joue beaucoup dans le film. Bon, chers amis, dans quatre coins du monde, avant de continuer, allez encore écouter la chanson de Novia Kolopaking. C'est-à-dire, cette chanson est très très populaire pour elle et c'est très très douce sa voix. Voici la chanson Asmara. Bonne écoute. Chers fidèles amis, aux années 90, on ne peut pas nier que le nom de Novia Kolopaking est très populaire, non seulement aux jeunes, mais aussi aux vieilles, parce qu'elle est connue comme chanteuse et aussi actrice. Après avoir eu du succès dans ce domaine, puis Novia Kolopaking s'est mariée avec homme culturel ou M.H. Ainun Najib en 1997. Et elle a 4 enfants dans son mariage. Bon, chers amis, c'était l'histoire de chanteuse Novia Kolopaking. Et avant de terminer notre rencontre, écoutez donc 2 dernières chansons de Novia Kolopaking intitulée « Untukmu segalanya ». Merci de votre attention et fidélité. Bonne écoute et au revoir.
C'est la fin de notre émission, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.